Bonjour. Sur Fréquence 7, comme chaque premier mercredi de mois, on se retrouve, qu'il soit 12h30 ou 17h30, pour l'émission Claire d'Étoiles. L'émission d'aujourd'hui vous est présentée par Denis de l'association Claire d'Étoiles et Brin de Jardin. Bonjour Denis.
Et par Françoise, également de Claire d'Étoiles. Bonjour Françoise.
Comme tous les mois, nous présenterons d'abord un bref panorama de ce qu'il sera possible de voir dans le ciel, à l'œil nu ou aux jumelles, dans le mois qui vient. Puis, nous ferons suivre par un focus, consacré cette fois aux exoplanètes. Denis, que verrons-nous dans le ciel au cours de ce mois de novembre ?
Nous avons bien bénéficié du spectacle des belles planètes Vénus, Jupiter et Saturne ces derniers mois. Nous les verrons encore en novembre, mais il faut en profiter, car elles disparaîtront bientôt pour de longs mois. La paire de géantes, Jupiter et Saturne, est visible de plus en plus bas au couchant sur l'horizon ouest. Remarquons que de jour en jour, Saturne se rapproche progressivement de Jupiter. Nous aurons l'occasion d'en reparler le mois prochain pour un phénomène des plus intéressants. Symétriquement, Vénus, encore visible tout le mois avant le lever du jour à l'horizon, reste l'astre le plus brillant du ciel. Aux environs du 11 novembre au matin, ceux qui ont la chance d'avoir un horizon est très dégagé, mais dans nos régions c'est difficile, pourront apercevoir, encore plus bas que Vénus, Mercure dans les premières lueurs de l'aube. Les 12 et 13, un fin croissant de lune viendra rendre visite aux deux compères. Des jumelles seraient un plus pour jouir du spectacle. Mais la reine de la nuit reste Mars, même si elle commence à s'éloigner de la Terre, passant de 70 à 90 millions de kilomètres, elle reste immanquable, magnifique astre orangé haut dans le ciel dans la direction du sud. Et comme nous sommes aux portes de l'hiver, profitez de l'arrivée des belles constellations d'hiver, dont ma préférée, Orion, trônera à partir de 22h du sud-est au sud-ouest. Cette belle constellation est facile à reconnaître par sa forme caractéristique de sablier. Certains y voient plutôt un nœud papillon ponctué vers le bas par Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel. Puisque l'on parle d'Orion, les courageux pourront observer dans les premières nuits de novembre la fin de la pluie d'étoiles filantes, justement nommée les Orionides, car elles semblent provenir de la direction de cette constellation. Encore plus tard dans la nuit, et même plus près du petit matin, une autre pluie d'étoiles filantes, les Léonides, qui elles semblent venir de la constellation du Lion, seront visibles pendant toute la durée du mois de novembre. L'intensité reste modeste, une dizaine d'étoiles filantes par heure. Il faudra malheureusement, jusqu'au milieu du mois, composer avec la rivalité de la lumière de la Lune. Les observations seront donc plus favorables après le 15.
Le focus du mois est consacré aux exoplanètes, c'est-à-dire, comme le nom l'indique, aux planètes qui n'appartiennent pas à notre système solaire. Lorsque l'on suit l'activité astronomique, on a l'impression que l'on en découvre sans cesse des nouvelles. À y regarder de plus près, bien peu ressemble à notre bonne vieille Terre. On peut se demander pourquoi, mais pour commencer, à combien en sommes-nous ?
Ouais, en effet, cela bouge tout le temps. Au 1er juillet, il y en avait environ 4300 confirmés dans 3200 systèmes stellaires, sans compter plusieurs autres milliers en attente de vérification. Au total, on peut estimer qu'il y aurait plus de 100 milliards de planètes dans notre galaxie.
Plus de planètes que de systèmes. Cela veut donc dire qu'il y a des systèmes avec plusieurs planètes, un peu comme le nôtre donc. En fait, ce n'est pas vraiment surprenant si on considère le voisinage de notre propre Soleil. 8 planètes majeures et une quantité innombrable de petits corps. Ce qui est même étonnant, c'est que l'on n'en détecte pas autant autour des autres étoiles.
Eh oui, d'autant que la formation de planètes semble être une conséquence quasi inéluctable de la formation d'une étoile à partir d'un nuage, mélange d'hydrogène, de glace et de poussière. Ce qui est le cas presque général comme on le sait maintenant. En réalité, le petit nombre relatif de planètes observées autour des autres étoiles est lié aux conditions dans lesquelles elles sont découvertes. Dans un langage savant, cela s'appelle un biais observationnel.
De plus, la différence des autres systèmes avec le nôtre ne réside pas seulement dans le nombre de planètes observées, mais aussi dans leur architecture. Le plus souvent, on détecte ce qu'on appelle des Jupiters chaudes, c'est-à-dire des très grosses planètes, comme notre Jupiter, mais beaucoup plus proches de leur Soleil que nous. Et lorsque l'on détecte des planètes similaires à la Terre, elles restent toutefois plus grosses et tournent le plus souvent autour d'étoiles bien plus petites que le Soleil, les naines rouges.
On pourrait donc en conclure que notre système, composé de planètes moyennes, proches du Soleil, et de géantes bien plus éloignées, serait unique. Ou alors, c'est qu'il y a quelque chose dans nos méthodes d'observation qui fausse le résultat.
Le fameux biais observationnel.
Oui, on peut trouver une analogie. Supposons que l'on veuille faire un recensement des types de poissons dans l'océan en effectuant des prélèvements réguliers à l'aide de chaluts, puis en dénombrant les espèces trouvées pendant un certain temps.
Je comprends. Si la maille du filet est trop grande, on ne détectera rien en dessous de la taille d'une sardine, et de plus tous les poissons, même les plus grands, mais plus rapides que le chalut, vont échapper au recensement.
L'analogie est intéressante. Considérons donc quels sont les chaluts que l'on utilise pour détecter les exoplanètes.
On peut essayer de les voir directement au télescope ?
C'est très difficile à cause de la différence de luminosité. C'est aussi difficile que de distinguer de nuit, à plusieurs kilomètres de distance, un ver luisant qui serait posé sur le bord d'un phare en mer. C'est tellement ardu que seules quelques rares planètes ont été détectées ainsi au prix de complexes astuces techniques. Ce type de filet est bien peu efficace.
On cite la méthode des transits et celle des vitesses radiales comme les plus efficaces. Ceci mérite quelques explications, surtout pour la seconde, celle des vitesses radiales. La vitesse radiale, c'est la vitesse à laquelle on voit dans notre rayon de visée, d'où le nom, une étoile se rapprocher ou s'éloigner de nous. Reste à comprendre en quoi une planète influence cette vitesse radiale et comment on la mesure.
La bonne image pour cela, c'est celle du lancer de marteau aux Jeux Olympiques. On a tous vu ces images où l'athlète tourne sur lui-même avant de lâcher son marteau. On constate très bien qu'il ne tourne pas droit comme un i, mais que par réaction au poids du marteau, il oscille légèrement à chaque tour.
L'étoile, c'est donc le lanceur, et la planète, le marteau. Compris. Reste à expliquer comment on mesure cette vitesse d'oscillation. J'ai entendu parler d'effet Doppler, cet effet qui modifie la vitesse du son d'une sirène d'ambulance lorsqu'elle se rapproche ou s'éloigne de nous à grande vitesse. Wow.
C'est exactement cela, sauf que ce que l'on mesure, c'est la fréquence de la lumière qui nous parvient de l'étoile. Si l'étoile se rapproche de nous, la fréquence augmente, c'est-à-dire que sa lumière devient plus bleue. Et si elle s'éloigne, la lumière devient plus rouge. Je simplifie car c'est un petit peu plus complexe, mais cela nous suffira pour comprendre que l'on peut ainsi détecter le balancement que la planète impose à son étoile.
Et l'on comprend donc bien que plus la planète est massive et plus elle est proche de son étoile, plus le balancement est important. On en déduit donc bien pourquoi on détecte plus facilement des grosses planètes proches de leur étoile et que les petites ou celles qui sont éloignées passent à travers les mailles du filet. Mais qu'en est-il pour la méthode des transits ? D'ailleurs, c'est quoi un transit ?
Alors, en astronomie, le transit d'un astre, c'est le phénomène visuel qui apparaît lorsque cet astre passe devant un autre beaucoup plus gros, du moins en apparence. Dans notre système solaire, on peut observer régulièrement les transits de Mercure ou de Vénus lorsque ces planètes passent devant le Soleil. À condition d'être équipé des protections oculaires adaptées, on peut distinguer un petit point sombre qui passe devant le disque du Soleil.
Petit car ces planètes sont très petites par rapport au Soleil et très éloignées de la Terre. Mais on connaît un cas particulier où l'astre en transit apparaît aussi gros que le Soleil, car il est plus proche de nous, c'est la Lune. Dans le cas de ce que l'on appelle d'ailleurs improprement une éclipse de Soleil. En réalité, il s'agit d'une occultation. Le terme d'éclipse devrait être réservé au cas où un astre passe dans l'ombre d'un autre.
Revenons donc au transit. Lorsque la planète passe devant son étoile, une faible partie de la lumière que nous percevons est masquée. Et c'est cette faible diminution de lumière que l'on sait détecter. On comprend bien que plus la planète est grosse et plus elle est proche de son étoile, plus la diminution de lumière est importante. On est donc encore une fois en présence du même type de filet. On détectera surtout les grosses planètes proches de leur étoile.
Pourtant, on a quand même détecté quelques petites planètes comme la Terre.
Oui, mais essentiellement lorsqu'elles tournent près d'une petite étoile, ce que l'on appelle une naine rouge, car le rapport des tailles est favorable. Cela tombe bien d'ailleurs. L'étoile la plus proche du Soleil, Proxima Centauri, est une naine rouge, et on y a justement détecté une planète de la taille de la Terre.
Donc, youpi, elles existent.
Oui, et probablement en grand nombre si l'on en croit quelques calculs statistiques effectués sur les découvertes récentes. De toute façon, même si un seul système stellaire sur 1000 pouvait receler une planète du type terrestre, et c'est une hypothèse assez pessimiste, ça en laisse quand même près de 100 millions dans notre seule galaxie. Se pose ensuite la question de savoir si elles sont susceptibles d'héberger la vie. Mais ça, c'est un vaste ensemble de questions sur lesquelles nous reviendrons lors de prochaines émissions.
Eh bien, merci Denis. La prochaine émission de Claire d'Étoile sur Fréquence 7 aura lieu le mercredi 2 décembre. Au revoir à tous.